c'est étonnant, non?
Bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, je vais vous parler de rencontres d'artistes.
C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours. Voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient. Un chemin un peu bizarre, un peu tordu, comme la vie. Évidemment, j'étais pas tout seul, j'avais envie de faire connaissance. Il y avait un tas de personnes et personne marchait dans le même sens. Alors je continuais tout droit, mais un doute s'était installé. Je savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Mais en chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres.
La première rencontre dont je vais vous parler, c'est celle de Mireille et de Jean Noël. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous dit certainement absolument rien. Et même pour ceux de ma génération, c'était déjà un petit peu passé. Mireille et Jean Noël sont nés au début du XXe siècle. Jean Noël directement en 1900 et Mireille 6 ans plus tard en 1906. Tous les opposent au niveau de leurs origines. Jean Noël est fils d'un homme de lettres, Franc Noël, qui écrit des aphorismes, qui a fait des livres. Ce n'est pas son vrai nom. Noël, c'est le nom d'une rivière qui coule dans la Nièvre et dans l'Yonne. Alors c'est un homme qui va être un homme de projet télévisuel, il va écrire plein de choses, c'est un homme de lettres, c'est quelqu'un d'assez étonnant. Mireille, son papa est un juif polonais, qui était pelletier, c'est-à-dire marchand de fourrure, et sa maman était anglaise. Elle était d'une famille d'intellectuels, de gens assez brillants. Elle commence la musique très très jeune. Mireille, c'est aussi un pseudonyme, hein. Ce n'est pas son vrai nom. Donc elle commence la musique très jeune et très rapidement, elle va devenir excellente pianiste et également compositrice. Et elle va faire quelque chose à Paris plus tard qui va s'appeler le conservatoire. Pendant la guerre de 39-45, Mireille va se cacher, car elle est d'origine juive. Et Jean Noël va rentrer une fois de plus dans l'armée, il l'avait déjà fait quelques années auparavant. Il va recevoir la Francisque, ce qui est un ordre vichiste, absolument pas pour des raisons de pensée, car Jean Noël est tout sauf quelqu'un d'extrême droite, mais il va la recevoir parce qu'en fait son char, son blindé, a sauté sur une mine et il s'en est tiré. Donc c'est une espèce de médaille d'héroïsme qui ne correspond pas à grand chose, et c'est le seul qu'il a reçu pour cette raison-là. Alors Mireille et Jean Noël vont avoir une grande carrière ensemble, lui plutôt comme parolier, mais il est également compositeur, et elle comme compositrice, mais elle est également autrice. On va écouter un de leurs petits chefs-d'œuvre, ça s'appelle « Papa n'a pas voulu ».
Marié, je serai toujours le premier. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. J'adorais les animaux, les chiens, les chats, les chameaux, les poissons rouges, les taureaux, les poules et les veaux. Un jour dans une loterie, je gagne une loterie. Je l'amène à la maison et je l'installe dans le salon. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Je mangeais quand j'étais gamin tout ce qui me tombait sous la main. Je suçais les rideaux de papin et les traversins. Un jour ma tante et celle donne une boîte d'aquarelle. Elles étaient sans danger, alors j'ai voulu les manger. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. J'aimais beaucoup le violon, le trombone et le piston, la flûte et l'accordéon, le piano et le basson. Un jour le marchand passe, j'achète encore de chasse. Dès la première leçon, toute la famille a dit non. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée le raser plus, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents, papa n'a pas voulu, et maman non plus. Ma soeur m'avait fait cadeau d'une jolie paire de ciseaux, je coupais les franges des rideaux en tout petits morceaux. Je taillais les tentures, les draps, les couvertures, et je voulais même couper l'eau, le gaz, l'électricité. Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu, et maman non plus.
Nous faisons maintenant un bond de 60 ans en avant pour nous retrouver en 2002. Axel Red est une chanteuse belge qui admire beaucoup Renaud et il va écrire cette chanson, Manhattan Kaboul, un an après l'attentat contre les tours américaines dont on a parlé et dont on va parler encore longtemps. On écoute ce petit chef-d'œuvre d'empathie.
Bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solo gagne mon rêve américain. T'imposer l'islam des tyrans, cela n'oublie jamais ni le Coran. Suis redevenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation,
les armes, les drapeaux, les patries, les nations
font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle.
Nous voilà transportés un bon siècle en arrière, puisque nous sommes au début du 19e siècle, pour parler de Robert et de Clara Schumann. Alors Robert Schumann, en fait, était beaucoup moins célèbre à son époque que Clara Schumann, qui s'appelait à l'époque Clara Wieck. Clara est la fille d'un facteur de piano, Frédéric Wieck, qui est également professeur et qui a un énorme sens commercial. Quand Schumann vient prendre des cours chez lui, il s'aperçoit qu'il est très très bon pianiste, donc il essaie d'en faire une espèce de bête de scène. Son élève a de la technique, seulement il est un petit peu, comment dire, c'est pas quelqu'un de très équilibré. Il a renoncé à une carrière de pianiste parce qu'il s'est fait mal à un doigt, qu'il avait inventé un appareil pour fortifier le quatrième doigt et que ça n'a pas marché. Ce n'est pas forcément la vérité, parce que Schumann avait connu une jeune fille, il avait une vingtaine d'années à l'époque, qui lui avait donné une maladie vénérienne. Et à l'époque, on faisait très peu le distinguo entre la syphilis et les maladies vénériennes qui pouvaient être de différentes sortes. Donc il est possible que Schumann ait été effectivement syphilitique. Il a été traité, en tout cas pour ça, à l'arsenic. Et ça a certainement eu une influence terrible sur son destin. Mais on ne sait pas exactement. En tout cas, il est possible que cette maladie l'ait aussi handicapé mentalement sur certains points. Il a connu Clara, elle avait 16 ans. Lui en avait 9 ans de plus, c'est-à-dire 25. C'était encore une jeune fille, mais par contre, c'était quelqu'un qui était déjà reconnu comme artiste, aussi bien comme pianiste que comme compositrice, parce qu'elle composait également. Et c'était une espèce d'enfant prodige, d'enfant star. Elle avait un statut très particulier. Et donc, il est tombé forcément amoureux d'elle. Lui avait 5 ans, elle 16. Ils ont commencé à avoir un flirt ensemble. Et alors là, par contre, Papa Vic, ça n'a pas marché du tout. Quelques années après, ils ont fait une demande en mariage qui l'a débouté, et finalement, ils l'ont attaqué pour ça. Et ils ont gagné. Ils ont été 2 fois en procès contre lui, et 2 fois ils ont gagné. Vous imaginez, être en procès contre son beau-père, c'est quand même quelque chose de terrible. Donc par la suite, ils se sont mariés, ils ont eu ensemble 6 enfants, mais la fin a été quand même terrible, parce que Schumann est mort, et il avait un petit peu plus de 40 ans. Clara s'est retrouvée veuve, mais ils n'avaient plus de rapport ensemble, parce qu'il était dans un état physique très 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 particulier, et il a fini dans un asile. Alors Clara était aussi compositrice, et nous allons écouter une de ses compositions.
Thank you.
C'est diablement beau, n'est-ce pas? Alors on va enchaîner sur un petit peu de variété. Deux rencontres. La première rencontre, c'est une rencontre entre François Sardy et Marc Lavoine. Et ils ont chanté sur un album, c'était en 1989, une très belle chanson. Cher ami, François Sardy, quand Marc Lavoine avait sorti « Elle avait les yeux revolvers » en 85, avait été une des rares artistes à lui envoyer une petite lettre de félicitations en lui disant qu'elle avait beaucoup aimé ce qu'il avait fait. La deuxième rencontre, c'est une rencontre entre Kali et Michel Delpech qui ont chanté pour un album de duo, un titre que je ne vous présente pas.
Je pense à vous souvent, je continue quand même d'aimer les bas tout blancs que le désir entraîne.
Je manque de vous souvent, mais je m'en vais quand même. Laissez voler le vent qui souffle sur la peine. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. Seul depuis que je vous ai perdu, je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses.
La la la. Je ferai n'importe quoi pour un flirt avec toi. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous. Pour un flirt avec toi. Oh, un petit tour,
un petit tour,
un petit jour,
un petit jour
entre tes bras.
Elle est espagnole et une des plus grandes cantatrices probablement de tous les temps. Il est d'origine indienne et une icône de la musique pop. Ils ont une énorme admiration l'un de l'autre et ils vont vivre ensemble une amitié intense et enregistrer plusieurs titres. Voici le plus célèbre d'entre eux.
I had this perfect dream. This dream was me and you. I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
A miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming.
Vous avez reconnu bien sûr Barcelona, avec la magnifique Montserrat Caballé et Freddie Mercury. Ils avaient presque 20 ans d'écart. Mais quel talent pour se retrouver dans des choses comme ça. On va enchaîner sur une chose beaucoup moins sympathique, parce que toutes les rencontres ne sont pas excellentes. Il en est même de nocives. Une particulièrement, celle de Ike et Tina Turner. Alors Ike est plus âgé que Tina, de 9 ans. Elle est habituée à la violence parce que sa mère a quitté son père pour cette raison-là. Et il va abuser de tout. Déjà, il va l'épouser pour avoir la garde de ses enfants par rapport à sa femme précédente. Ensuite, il va être un consommateur abusif d'alcool, de cocaïne et de tout ce qu'on veut. Et Tina va vivre avec lui un enfer. On va écouter un de leurs titres. Après, bien sûr, elle va faire sa grande carrière en solo. Tina Turner est une héroïne, une femme fabuleuse. Avec le bazar qu'a semé Ike vers la fin de leur collaboration, il y a eu tout un tas de contrats qui n'ont pas été honorés. Donc les contrats, en Amérique comme ailleurs, c'est de l'argent. Tina a fait un nombre incalculable de concerts pour rembourser ces dettes-là. Elle a tout remboursé, toute seule. On va passer à une histoire un peu plus drôle. 1968. Jacques Dutronc et Jacques Stansman, qui sont en train d'enregistrer un disque, sont en train de faire une pause dans le studio, donc ils sortent pour fumer une cigarette, et ils rencontrent Roger Bourdin. Qui est Roger Bourdin ? Roger Bourdin était un grand flûtiste français, qui est également chef d'orchestre, qui enregistre des choses de variété et tout, qui est un type complètement extraordinaire, un très grand musicien, et très intimidé, parce qu'il est très connu, Jacques Dutronc, ne sachant quoi lui dit « Alors, vous venez jouer avec nous ?» Ce à quoi Bourdin lui répond « S'il n'y a que ça pour te faire plaisir, c'est parti. » Ils vont fumer la cigarette ensemble, ils reviennent, et Roger Bourdin nous livre le chorus de flûte extraordinaire de cette chanson.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Quel solo, n'est-ce pas ? Et tout ça en une seule prise. On est quelques années après, en 1983-84. C'est le grand succès de Michael Jackson, c'est l'icône de la pop. Et la chanson qui nous intéresse, c'est celle-ci. Michael Jackson donne un concert et Eddie Van Halen, un grand guitariste qui a un concert à côté, va assister à la fin quand Michael Jackson chante cette chanson. Et comme il a sa guitare à la main, il monte sur scène et il improvise ce fabuleux chorus. Van Halen, Eddie Van Halen est vraiment un super brave type. Et quand Quincy Jones l'appelle pour lui demander s'il veut l'enregistrer avec Michael Jackson, il croit que c'est une blague au début. Mais bon, il y va. Du coup, Michael l'enregistre. Et Van Halen, qui nous a quittés en 2020 d'une affreuse maladie, il était un gros fumeur et il a eu un cancer, qu'il a eu une ablation partielle de la langue, il est vraiment parti dans des souffrances relativement atroces. Van Halen n'a jamais touché un centime sur ce titre.
C'est étonnant, non?
Thank you.